Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Den 9. November 1989 ist die Mauer zwischen Ost- und West-Berlin gefallen. La Chute du Mur war dafür Thema von einem Gespräch aus einem Konferenzzyklus rund um den Mauerfall, organisiert vom Institut Pierre Werner, kurz IPW, den 24. Oktober am Centre Culturel de Rencontre an der Abtei Neumünster. Mein Name ist Carlo Link und ich begrüße euch ganz herzlich um Radio 100,7 für eine weitere Mission aus der Serie Konferenzen. Für nicht viel Zeit zu verlieren, schalte mir es gleich an Gespräch ran, gefordert von der Chroniqueuse littéraire Marie-Madeleine Rigopoulos mit dem französischen Journalist und Autor Olivier Guez, den zusammen mit dem Jean-Marc Conin Buch mit dem selbigen Titel La Chute du Mur geschrieben hat, wer 2009 herauskommt. Am Gespräch aus der Mauer Fall von 1989 Hauptthema, weiter geht aber auch die europäische Entwicklung thematisiert. Informationen zum Thema wie auch Biografien von den Intervenanten sind zu finden auf französischer Spruch auf radio100.7.lu unter Konferenzen. La parole est maintenant à Marie-Madeleine Rigopoulos et à Olivier Guez.
Alors, Olivier Guez, nous allons bien évidemment parler de ce livre, La Chute du Mur, qui est un livre que vous avez publié en 2009. Et ce sera évidemment le prétexte et la porte ouverte sur la question de l'Europe que nous allons aborder plus longuement. Vous avez un tropisme, on va dire, européen, c'est-à-dire que l'Europe vous préoccupe soit de façon directe, soit de façon détournée, toujours aussi bien dans votre écriture, dans vos reportages, et puis... J'ai envie de dire peut-être, et peut-être que je m'avance, mais même à titre personnel, vous avez dit un jour « l'Europe, c'est ma maison ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est lié à vos origines strasbourgeoises ou est-ce que ça va au-delà de ça ?
En fait, j'ai pas un tropisme européen. C'est « je suis simplement européen ». La question s'est jamais vraiment posée. C'est-à-dire, je ne me considère même pas comme pro-européen. Parce que généralement, quand on se déclare pro-européen, ça veut dire qu'on aurait tendance à soutenir la construction européenne telle qu'elle s'est faite depuis les années 50. Je suis pas nécessairement contre cette construction européenne, là n'est pas la question, mais je suis simplement européen. Donc il y a plein de facteurs qui expliquent cette identité, je ne parle même pas d'engagement, je parle vraiment d'identité. Évidemment, ma naissance et ma jeunesse à Strasbourg, mais aussi les origines de ma famille qui sont très diverses. Du côté de ma mère, c'est plutôt l'Europe centrale, c'est la Rhénanie, Thionville, c'est pas très loin d'ici, les germanophones de Prague, et de l'autre, un père qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, mais avec des origines espagnoles et italiennes. Donc, par toutes ces influences, il y a véritablement un sentiment européen, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, Strasbourg, c'est une ville qui vit déjà avec deux ou trois identités, la française, l'allemande et l'alsacienne, qui est un mélange des deux, mais pas seulement. Il y a le fait d'avoir grandi dans la décennie qui a probablement été la plus européenne de toutes au XXe siècle, à savoir les années 80. Moi, je me souviens, gamin, chaque année, finalement, c'était l'occasion de célébrer soit une très grande avancée de la communauté européenne, soit même, mais des souvenirs très personnels. Mes grands-parents maternels, où j'ai passé beaucoup de temps, habitaient en face du Conseil de l'Europe. Mais quand j'étais tout gamin, à la fin des années 70, il y avait une piscine. Et ça a été un drame absolu lorsque cette piscine a disparu pour l'érection du bâtiment du Conseil de l'Europe. Et je les ai vus comme ça germer au fur et à mesure les institutions. Et il y avait le passage en Allemagne régulier, il y avait les vacances en Italie. Donc, moi, j'ai toujours considéré vraiment comme l'Europe comme ma patrie, ce qui n'empêche absolument pas de se sentir français, ému par un paysage de la Loire, mais comme se sentir chez soi en Sicile, à Stockholm ou à Prague. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'inné, en fait, et qui est un peu la base de tout ce que j'ai pu faire depuis une vingtaine d'années.
Alors, on va revenir à cette question plus largement européenne, mais notre échange ne sera pas chronologique, on va dire, on va pas partir de la Seconde Guerre mondiale pour arriver à aujourd'hui. On va d'abord s'attarder un peu sur la chute du mur, donc ce livre que vous avez coécrit avec Jean-Marc Gonin en 2009, qui est un moment clé de l'histoire de l'Europe, à plein d'égards, et peut-être nous expliquerez-vous pour quelles raisons. C'est un roman. C'est un roman parce qu'il en a tous les leviers, la construction, la mécanique, mais évidemment, tous les faits sont réels. Il s'agit d'une enquête que vous avez faite. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez pris le parti de raconter octobre et novembre 89 à travers les grandes figures historiques qui l'ont illustré, mais surtout à travers les gens, c'est-à-dire les acteurs anonymes d'une certaine façon, mais qui en réalité ont eu un rôle extrêmement important. Pourquoi ce parti pris ?
Alors déjà, la genèse de ce livre, je pense, est assez intéressante. J'ai vécu 5 ans à Berlin, entre 2005 et 2010, et lorsque j'arrive en 2005 à Berlin, je suis frappé par la résilience de la RDA, quelque part. J'habitais à l'Est, comme tous les Français à l'époque, à Prenzlauer Berg, pour ceux qui connaissent Berlin, qui a beaucoup changé depuis, mais qui était encore assez authentique, et le Prenzlauer Berg, comme on l'appelait, était vraiment le quartier d'une certaine forme de dissidence. Il ne faut pas non plus exagérer la dissidence en Allemagne de l'Est dans les années 80, mais en tout cas, les dissidents, en tout cas ceux qui n'étaient pas pour, vivaient à Prenzlauer Berg. Et donc, quand je suis arrivé à l'automne 2005, je regardais les bâtiments, je regardais les immeubles, je regardais même l'odeur. Il y avait encore cette odeur qui était caractéristique de l'Europe de l'Est, et en particulier à Berlin, cette odeur de lignite, cette odeur de charbon. Et donc, moi, je suis arrivé à l'automne. Donc, en fait, mes premières impressions, c'est cette atmosphère-là. Et je me dis, c'était un événement hyper marquant pour ma génération. Moi, j'ai 15 ans au moment de la chute du mur, à l'automne 89, et j'ai jamais oublié ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, il faudrait retracer l'histoire de cette chute du mur. Et ce qui est fascinant dans cette histoire de la chute du mur, pour ceux qui l'ont vécu, même gamins comme moi, c'était l'effet de surprise, quelque part. Ça s'est passé à une vitesse absolument sidérante. Et donc l'idée était de raconter comment on avait pu passer de la visite de Mikhail Gorbatchev le 6 octobre 89, donc pour les 40 ans de la RDA, à la chute du mur un mois et trois jours plus tard. Et personne ne l'avait prévu, aucune chancellerie ne l'avait prévu. Donc on a voulu, je l'ai proposé à Jean-Marc Gonin qui avait été correspondant en Allemagne dans les années 80 pour Libération, et je lui ai dit, il faut qu'on raconte ça. Mais je lui ai dit deux choses aussi. Je lui ai dit, la première chose, il y a une tension exactement comme Paris brûle-t-il. Vous vous souvenez probablement de Paris brûle-t-il, donc l'histoire de la libération de Paris, et cette histoire elle est écrite avec des focales tout à fait différentes. C'est une espèce de mosaïque où vous avez des résistants, vous avez des soldats allemands, vous avez des dirigeants de la Wehrmacht, vous avez de simples parisiens qui à un moment se retrouvent pris dans cette mécanique de l'histoire, et quelque part la chute du mur s'est passée de cette façon. Vous avez une multitude d'acteurs qui, au 6 octobre 89, ne se connaissent pas et n'ont même pas idée du rôle qui va être le leur dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et il y a une tension dramatique, exactement comme dans Paris brûle-t-il, à savoir que dans Paris brûle-t-il, la question est-ce que les Allemands vont bombarder, détruire les ponts, les immeubles, les magnifiques monuments de Paris au moment de la libération ? Et là, c'est exactement la même question. Est-ce que, à partir du moment où ce peuple est-allemand se met en branle, commence à descendre dans la rue chaque semaine, de plus en plus nombreux dans les rues de Leipzig, est-ce que les Soviétiques vont réagir comme les Chinois à Tiananmen en juin de la même année ? Ou est-ce que les Soviétiques vont être capables de lâcher leurs plus beaux joyaux en Europe, à la fois symbolique, militaire et politique, à savoir Berlin-Est. Donc ça, c'était l'idée de départ. Et donc, bien évidemment, on a rencontré toutes sortes de personnages impliqués dans cette histoire. Quelqu'un comme Günter Schabowski, dont j'imagine on parlera plus tard, qui est l'homme qui fait cette méprise historique, comme si son inconscient avait parlé, et lorsqu'on lui demande à partir de quand les gens pourront circuler, et qui ne sait pas, en fait, consulte ses notes, qui lit peut-être la mauvaise ligne, et qui dit « ab sofort », tout de suite, comme des gens très jeunes à l'époque, soit des militants, soit simplement des Berlinois de l'Est ou des gens de Leipzig qui à un moment se trouvent pris dans cette mécanique. Et il y avait quelque chose d'extrêmement touchant. J'ai commencé à travailler sur ce livre en 2007-2008, donc on n'est même pas 20 ans après les événements. Et ces gens très jeunes à l'époque sont encore jeunes. Ils ont 36-37 ans. Il y avait quelque chose d'absolument fascinant. Moi, je me souviens, donc j'habitais à Prenzlauer Berg, il y avait un café, pour ceux qui connaissent le Berlin de l'époque, qui s'appelait le 103, le 103. Et la serveuse, qui était très sympathique, fait partie des personnages. On avait commencé à parler, elle avait commencé à me raconter son histoire. Elle avait 17 ans à l'époque de la chute du mur. Et elle a commencé à me raconter cette histoire-là. Et dans le Prenzlauer Berg de l'époque, qui n'avait pas autant changé qu'aujourd'hui, qui ne s'était pas gentrifié de 20 ans, finalement, évidemment, ne s'était pas écoulé de la même façon qu'aujourd'hui, il y avait encore plein de gens qui s'étaient retrouvés au cœur de cette histoire. Et donc on les a retrouvés, et l'idée était de bâtir un récit choral, une mosaïque qui raconterait ces 33 jours qui vont faire basculer Berlin, l'Allemagne, l'Europe et le monde dans une nouvelle ère.
Donc il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a même un pasteur qui joue un rôle aussi assez important, et la manière dont ils vont vivre ce mois-là est alternée avec ce qui se passe évidemment en haut lieu, au niveau gouvernemental. Alors la manière dont vous vous l'avez construit, je disais tout à l'heure, c'est un roman parce que ça se lit comme un roman, il y a une espèce de tension dramatique et en même temps une ambiance assez surréaliste. Vous venez d'évoquer Chabrowski avec cette espèce d'exclamation totalement extraordinaire. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que, par exemple, un des personnages, d'une certaine façon principaux, mais qu'on voit juste à un instant, c'est un garde-frontière. C'est lui qui va finalement être l'acteur incroyable aussi de cette chute du mur. C'est-à-dire quelqu'un qui, tout d'un coup, faute d'instruction, va ouvrir une porte.
Pour raconter cette histoire, il fallait qu'on ait un espèce de panachage, bien évidemment, de tous les personnages impliqués de près ou de loin dans cette histoire. Et la nuit, puisque vous parlez de ce garde-frontière, après cette phrase historique de Chabrowski, qui n'était pas prévue, donc tout le monde est pris par surprise. Les gens s'approchent du mur, mais ils ne savent pas ce qui va se passer. Le garde-frontière n'a aucune consigne. Pour lui, il garde le mur et des dizaines d'Allemands de l'Est avaient perdu la vie parce qu'ils avaient voulu franchir le mur. Donc il y a une espèce de cacophonie plus haut niveau du pouvoir. Et donc entre le secrétaire général du Parti communiste est-allemand et le plancton littéralement à la frontière est-ouest, personne ne sait quoi faire. Et finalement, ce sont des gens comme ce garde-frontière qui, ne sachant pas que faire, et parce que justement il y a ces 4-5 semaines qui montrent au fond que la RDA, en tout cas cette RDA-là, n'avait plus de justification d'une certaine manière, que ce régime était totalement dépassé, que l'économie était en train de s'effondrer. Toute cette partie de l'Europe, en fait, était en train de s'effondrer, quasiment comme un château de cartes. Eh bien, ce sont ces personnages-là qui, à un moment, prennent une responsabilité historique, mais qui lèvent, qui ouvrent la barrière.
Est-ce que ça nous dit pas, d'une certaine façon, que loin d'être l'effet du hasard, et on a dit tout à l'heure, il a lancé cette phrase presque par erreur, etc. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment une erreur? Est-ce que ça n'est pas l'histoire qui rattrape ces acteurs? C'est-à-dire que finalement, on dit qu'on s'attendait pas à la chute du mur, mais finalement, est-ce que c'était pas plutôt chronique d'une chute annoncée? C'est-à-dire que tout tendait à ce qu'à ce moment-là, ça arrive. Quand on met bout à bout, quand on lit votre livre et qu'on voit minute par minute comment les choses se sont passées, on a quand même le sentiment que tout le mécanisme s'est enclenché, les planètes se sont alignées pour que ça arrive. C'est qu'il y avait quand même un terrain propice à ça.
Je pense qu'aujourd'hui, on peut le voir comme ça. Parce qu'effectivement, si on met tout bout à bout, ça donne l'impression que tout ça était sur le point de s'effondrer. Finalement, c'est une question de jours, de semaines ou de mois. Mais à l'époque, j'étais trop jeune à l'époque pour pouvoir tout analyser, mais puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus il y a 10 ans maintenant, non, c'était pas du tout écrit. Alors, d'un côté, les régimes communistes d'Europe centrale et orientale ont toujours été contestés, puisque ces 45 ans d'occupation soviétique sont émaillés de grandes révoltes populaires, Berlin-Est en 53, Varsovie en 56, Prague évidemment en 68, et de révoltes un peu moins fortes, un peu moins, on va dire, exceptionnelles, mais déjà la Pologne s'attire de partout, dès les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Donc ces régimes n'ont jamais été avalisés par la population. Ça, c'est une première chose. Et d'ailleurs, les gouvernements le savaient. C'est pour ça qu'ils surveillaient tellement leur population. Donc en Allemagne de l'Est, on a même construit ce mur, puisque les Allemands de l'Est partaient simplement dans les années 50. C'était une hémorragie totale. Donc c'est pour ça qu'on fait un mur à Berlin-Est en 1961. Donc effectivement, ce bloc-là n'a jamais été accepté. Ensuite, il y a des difficultés économiques gigantesques à partir du début des années 80. C'est-à-dire qu'en fait, ce tournant libéral pris en Occident, la révolution des médias aussi, parce que ça, on parlera peut-être de la télévision ouest-allemande, le rôle gigantesque que ça a joué dans cette histoire-là, à l'automne 89. C'est-à-dire l'ouverture des économies fait que ces régimes qui fonctionnaient globalement en autarcie, si on prend le bloc de l'Est comme un système autarcique, est totalement dépassé. Et ces économies sont, en fait, ne sont plus du tout compétitives. Donc ça, on peut l'ajouter. Et puis troisièmement, évidemment, tout ce bloc-là et tous ces pays, et la RDA en particulier, tout dépend de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, à partir du moment où elle entre en Afghanistan, elle va mettre des clous à son cercueil. Elle ne le sait pas encore, bien évidemment, mais c'est ce qui va provoquer, en tout cas accélérer la chute, plus des problèmes économiques, et puis l'arrivée de cet homme jeune et inconnu qu'est Gorbatchev, qui lui regarde les données et comprend que soit il arrive à changer le système, soit tout va s'effondrer. Donc aujourd'hui, on peut dire effectivement, tout conduisait à l'écroulement. Sauf qu'à l'époque, un, personne ne l'a prévu, deux, les données statistiques du bloc de l'Est étaient généralement, globalement trafiqués, un petit peu comme les athlètes du bloc de l'Est qui étaient eux aussi trafiqués. Et trois, encore une fois, il y a la géopolitique soviétique. C'est-à-dire que, évidemment, la construction de ce bloc de l'Est, c'est une conséquence de la Seconde Guerre mondiale, de la victoire de l'armée rouge. Et Berlin, encore une fois, c'est le symbole absolu de la victoire du communisme soviétique sur l'Allemagne nazie. Et quelque part, c'est le grand rêve des Russes, ça n'a rien à voir avec les Soviétiques, c'est d'aller toujours plus loin vers l'Europe de l'Ouest. Et donc, est-ce que l'Union soviétique est prêt à lâcher ? C'était pas du tout écrit. Deuxièmement, Gorbatchev, à l'époque, est déjà très contesté. Il y aura ce putsch un an et demi plus tard. Il y a la vieille garde du KGB, il en est pas question. Il y a l'armée rouge. Donc, tout ça fait que c'était pas du tout écrit, que le mur finalement s'effondre quasiment d'un claquement de doigts, après cette phrase assez anodine de cet homme qui n'a pas une responsabilité historique avant, qui est Günther Schabowski, qui était un dirigeant politique assez tiède. Hein. C'était pas le plus pas en première ligne pour chasser Honecker au milieu du mois d'octobre. Il regardait un petit peu, mais il n'était pas non plus hostile aux réformes. Et moi, je suis persuadé, au fond, que c'est son inconscient qui a parlé ce soir-là. C'est-à-dire qu'au fond, il savait que c'était cuit. Il pouvait pas se permettre un bain de sang. Il pouvait pas se permettre... Simplement, la RDA n'avait plus que... En termes de trésorerie, on en était là, n'avait plus que quelques jours, quelques semaines à vivre. On arrivait à la banqueroute totale. Et les Allemands de l'Ouest, qui étaient évidemment très bien renseignés, n'ont pas voulu accorder de prêt, puisque c'est quand même les Allemands de l'Ouest qui ont financé pendant très longtemps la RDA, en tout cas en partie, bien évidemment. Et les Soviétiques sont à peu près dans la même situation que les Allemands de l'Est. Et Gorbatchev n'a pas les moyens de soutenir. Donc au fond, il le sait, au Politburo, Parti communiste est-allemand, on le sait. Et donc je pense qu'à un moment, il se dit... Enfin, il ne se dit pas, mais c'est vraiment... C'est spontané, c'est un lapsus, c'est... Ben voilà, c'est fini, ce système-là est terminé.
Alors, la chute du mur a lieu en novembre 89, mais tout commence quand même ailleurs, ça commence à Leipzig, finalement. C'est ça la grande manifestation, c'est ça le déclencheur.
Je crois que le déclencheur, ce sont les Allemands de l'Est qui, pendant l'été 89, profitent de leurs vacances en Hongrie pour rejoindre l'Ouest. Je pense que ça, c'est le grand déclencheur. C'est-à-dire, c'est le signe, déjà, parce que l'Allemagne de l'Est n'est pas isolée. L'année 89 commence avec la Pologne, avec la Hongrie, qui sont en avance par rapport à l'Allemagne de l'Est ou à la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie. Eux commencent des réformes et les Allemands de l'Est comprennent, en fait, qu'ils peuvent sortir. Justement, quelque part, ils peuvent contourner le mur en passant par le sud, en passant par la Hongrie. La frontière entre la Hongrie et l'Autriche n'a pas été démantelée, mais en tout cas, elle a été ouverte au printemps 89 déjà. Donc là, c'est le signe, en fait, que la RDA commence déjà à pourrir de l'intérieur. Après, effectivement, la deuxième grande manifestation de cette fin de régime qui s'annonce, ce sont les rassemblements de Leipzig. Et Leipzig, c'est une ville très intéressante. Moi, je la connaissais pas avant de préparer ce livre. Leipzig ne correspond absolument pas à l'imaginaire qu'on avait des grandes villes d'Europe de l'Est dans les années 80. Parce que Leipzig a toujours été une ville très ouverte. Ça a toujours été une grande ville de foire. Donc une ville commerçante, donc par conséquent tout à fait ouverte. Ça a été une grande ville intellectuelle, il y avait de grands éditeurs, par exemple le fameux éditeur Rowohlt avait son siège à Leipzig jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait cette tradition d'ouverture, sans parler Jean-Sébastien Bach, donc toute une culture d'ouverture au commerce. Et ce qui était très important, c'est que Leipzig, à la différence de Dresde, et je pense qu'on voit encore la différence aujourd'hui entre Leipzig et Dresde, Leipzig, les gens pouvaient recevoir la télévision ouest-allemande. Et à Berlin-Est aussi, vous me diriez, sauf que Berlin-Est était beaucoup plus cadenassé parce que c'était évidemment la capitale. Donc Leipzig, il y a cette tradition d'ouverture, il y a cette présence quelque part permanente de l'Ouest via la télévision, et vous avez l'Église qui joue un rôle très important, qui accueillait déjà depuis plusieurs années toutes sortes de mouvements. C'était pas vraiment des dissidents, mais c'était des gens qui n'avaient pas trouvé leur place dans la RDA. C'est intéressant ce qui se passe à partir de la fin des années 70, début des années 80. Vous avez toutes sortes de micro-dissidences. Vous avez un petit milieu homosexuel, vous avez un petit milieu environnemental, vous avez un petit milieu punk, un petit milieu skinhead aussi. Donc tous ces gens savent en fait que le seul lieu où ils peuvent se réunir, il y a des prières d'ailleurs tous les lundis, c'est pour ça que les manifestations auront lieu le lundi soir à Leipzig, dans une église, et c'est comme ça en fait que ce mouvement s'amorce. Et la grande question, c'est l'une des tensions au début du livre, c'est comment va réagir la police, comment vont réagir les autorités. Donc au début, ils ne sont pas très nombreux. Ceux qui manifestent ce début d'octobre 89 sont très courageux. Et comme finalement le pouvoir est dépassé, on ne sait pas quoi faire, il y a des tensions, et bien évidemment au fur et à mesure les manifestants vont augmenter jusqu'à se transformer en une espèce de marée humaine à début novembre 89.
Vous parliez du rôle des médias. Est-ce que, d'une certaine façon, on peut dire aussi que les médias ont eu un rôle de fil rouge entre les gens, c'est-à-dire à une époque où, évidemment, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas la facilité de communication qu'il y a aujourd'hui, le fait qu'il y ait, qu'on soit tourné vers une chaîne de télévision ou une radio et qu'on ait une sorte de diapason, en fait, entre les gens. Est-ce que ça a vraiment contribué aussi à se sentir un petit peu porté, une sorte de frémissement qui aurait contribué au soulèvement des gens?
Je pense qu'il y a deux médias qui ont vraiment joué un rôle fondamental. Il y a Radio Free Europe, qui a eu un rôle très très important dans tout le bloc de l'Est pendant des décennies et des décennies. Mais ce n'était pas seulement des contre-informations, c'était finalement toute la pop culture occidentale, notamment américaine, l'importance du rock, qui s'est propagée justement à travers cette radio financée par les Américains. Et puis évidemment, il y avait la télévision ouest-allemande. C'était le miroir inversé de la RDA, ce que racontait la télévision ouest-allemande. Les années 80, c'est une période bénite pour l'économie ouest-allemande. Donc il y a cette espèce de profusion de richesses, alors qu'en RDA, les immeubles tombent en ruine. Enfin, il y a une vraie dégradation de la situation, on en a déjà parlé. Et donc ça a attisé encore, quelque part. Peut-être que ça a donné du courage à certains, même si tous ne voulaient pas du tout rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. Auraient rêvé, mais ça c'est le propre à peu près de toutes les révolutions, trouver une troisième voie. Mais ça a joué, bien évidemment. Cette idée d'une société d'abondance contre une société, un modèle qui s'écroule globalement pour aller très vite, et aussi les mensonges. Parce que finalement, tous ces régimes dictatoriaux en Europe de l'Est étaient basés sur le mensonge. Il y avait des progressions du PIB qui étaient incroyables, sauf que les gens allaient dans les magasins et il n'y avait plus rien. Il fallait, je ne sais pas, attendre combien d'années pour avoir une voiture. Pour déménager, c'était la croix et la bannière. Et puis il y avait toujours les profiteurs du système, ceux qui étaient proches du parti. Et il y a un endroit, en fait, un lieu très très particulier qui existe toujours à côté de Berlin, qui s'appelle la Waldsiedlung. Et la Waldsiedlung, qu'au milieu d'une forêt, comme son nom l'indique, était un village qui était entièrement réservé aux dirigeants est-allemands. Ils avaient tous leurs petits chalets, c'est comme une espèce de club de vacances. Et donc ils vivaient tous les uns à côté des autres. Et donc ils s'espionnaient, ils pouvaient voir qui montait en grade, qui avait la plus jolie maison. Et ces gens-là avaient accès aux biens de consommation de l'Ouest. Alors, ils ne sont pas du tout enrichis. Hein. Quand on va là-bas, on se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout de tirants à l'africaine comme il pouvait y en avoir dans les années 70-80. Mais ces gens étaient des privilégiés. Et donc, entre l'effet de la télévision qui montre une Allemagne qui a réussi, une Allemagne ouverte, une Allemagne plutôt épanouie d'une certaine manière, et les mensonges qui étaient démentis par la réalité et qui étaient quelque part amplifiés par cet effet miroir de la télévision, tout cela a fait que oui, les médias ont joué un rôle très 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 important.
Alors, qui dit chute du mur dit réunification, et quand on parle de réunification, on pourrait être enclin à penser que c'est quelque chose de positif pour l'Europe, c'est-à-dire une espèce de consolidation du rêve européen, pour employer une expression galvaudée. Mais est-ce que finalement cette chute du mur, qui a été un moment clé dans l'histoire de l'Europe, a été un moment clé positif pour l'Europe, à votre avis?
De toute façon, elle était inéluctable. C'était artificiel, ce mur, de la même manière que la division de l'Allemagne était artificielle. Donc ça a perduré pendant quelques décennies, pendant l'après-guerre d'une certaine manière, mais de toute façon, et ce mur et ce régime devaient tomber. Je pense que finalement, c'est assez inutile de se demander si c'était bien ou pas. De toute façon, ça devait avoir lieu. C'était, encore une fois, totalement, totalement inéluctable. Après, la réunification s'est faite de telle manière que les Allemands de l'Est ont eu le sentiment et ont globalement été traités comme les vaincus de l'histoire, et que les Allemands de l'Ouest se sont comportés et ont considéré qu'ils avaient été les vainqueurs de cette histoire-là. J'ai récemment vu un documentaire justement sur l'année qui suit la chute du mur, ces fameuses négociations 2+4 entre l'Union soviétique, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne et les deux États allemands. Donc il y a encore un ministre des Affaires étrangères est-allemand au début de l'année 90, mais il n'a jamais son mot à dire. Quelque part, il est le valet de Genscher, le ministre des Affaires étrangères allemandes, ouest-allemand de l'époque. Et c'est évidemment l'Allemagne de l'Ouest qui mène le jeu. Quelque part, il ne pouvait pas y avoir d'équilibre entre ces deux États, un incroyablement prospère et l'autre en faillite totale. Par ailleurs, Kohl, il faut aussi se souvenir que pendant longtemps, l'un des objectifs de la CDU a été la réunification allemande. Alors ça a été mis un petit peu passé sous silence dans les années 70 après l'Ostpolitik de Willy Brandt. Il y a donc cette ouverture à l'Est, mais pendant 20-30 ans, l'objectif de la CDU, c'est la réunification. Et donc Kohl, qui vient de ce monde-là, qui en est le chef, il voit une ouverture historique. On se moquait beaucoup de Kohl dans les années 80. Après, on a oublié combien on s'était moqué. C'était la, dit bien, la poire. Et là, tout d'un coup, cet homme qui a été moqué voit une occasion historique qui ne se représentera jamais plus à un homme politique, à savoir l'homme qui va réussir la réunification allemande. Donc là, il fonce. Il a un boulevard devant lui. Il a un boulevard devant lui parce que l'Union soviétique est faible, très très faible, et qu'en gros, il va quasiment acheter à l'Union soviétique la RDA, que les Américains, l'Amérique de George Bush, perd, n'y voit aucun inconvénient, et que les craintes françaises, quelque part, ils vont trouver un deal avec la création de l'euro, de l'Union monétaire. Quant aux Britanniques, qui étaient les plus anxieux, il faut savoir, par exemple, j'ouvre une parenthèse, que Margaret Thatcher, elle avait une crainte incroyable de la réunification allemande. Et donc, pendant toute l'année 90, elle organise des réunions, elle invite au 10 Downing Street toute une série, les meilleurs historiens de l'Allemagne, pour savoir est-ce qu'on peut faire une réunification et qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire, je veux dire, la guerre n'a que 40 ans et des poussières. Donc, il y a le souvenir des bombardements sur Londres et elle est terrorisée, absolument terrorisée. Donc, c'est elle qui est vraiment contre. Elle, l'euro, évidemment, ne l'intéresse pas. Donc Mitterrand, quelque part, va trouver cet accord avec Kohl. Je ne me souviens plus quelle était votre question sur la réunification. Oui, si c'était une chose positive ou pas. Je pense que oui, elle a eu lieu. Après, j'imagine, on va parler, est-ce que cette réunification, je ne parle même pas seulement de la réunification allemande, de la réunification européenne, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle, au fond, elle n'a pas vraiment eu lieu à mes yeux ?
Je le poserais même différemment. C'est que j'ai le sentiment qu'on a eu deux opportunités, enfin, si on peut les appeler comme ça, de faire une Europe digne de ce nom, si je puis dire. Ça a été après la Seconde Guerre mondiale et après la chute du mur, c'est-à-dire une sorte de séance de rattrapage après la chute du mur, de ce qu'on n'avait peut-être pas réussi à faire après la Seconde Guerre mondiale. Or, le sentiment que j'ai, c'est qu'on s'est encore un petit peu planté après la chute du mur. En tout cas, on n'a pas saisi l'opportunité pour une Europe qui aille au-delà des traités, au-delà de quelque chose d'assez technocratique, finalement, mais qui ne s'est pas propagé à une idée plus noble, même, d'une unification européenne.
Alors ça, c'est évidemment une question ultra, ultra vaste. Je pense qu'après la Seconde Guerre mondiale, une Europe unie n'aurait pas été possible, enfin n'a pas été possible, pour la bonne et simple raison que les États européens sont totalement ravagés et qu'il eût fallu que les tuteurs de la reconstruction européenne, à savoir les États-Unis et l'Union soviétique, s'entendent. Donc à partir du moment où finalement s'instaure un conflit entre eux, d'Europe unie, il ne peut pas y avoir. Il peut y avoir finalement il y a eu deux intégrations, une intégration à l'Est et une intégration à l'Ouest. Chaque superpuissance a construit son Europe finalement à son image. Bon, en 89, tout ça s'écroule, en tout cas le camp de l'Est est ravagé. Et effectivement, quelque part, là, alors il y a une réunification formelle, puisque tous les pays, bon, par ceux de l'ancienne Yougoslavie, sont dans l'Union européenne aujourd'hui. Mais à mon sens, elle est totalement formelle. Ça ouvre de gigantesques, mais justement par rapport à la réalité européenne contemporaine. Mais
elle est formelle parce qu'elle reste technocratique, s'être déployée dans d'autres domaines.
Elle est formelle parce qu'elle est totalement désincarnée. Elle est désincarnée. Prenons l'exemple de Kundera. Kundera qui écrit dans les années 80 des textes extraordinaires sur l'Occident kidnappé. Ce qu'il appelle l'Occident kidnappé, à savoir des villes comme Prague, Varsovie, Budapest, qui sont bien évidemment autant européennes et occidentales que Paris, Bruxelles ou Rome. Donc cet Occident a été kidnappé par l'Union soviétique. Je pense fondamentalement qu'après la chute du mur et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une forme de dédain de l'Europe occidentale pour cet Occident kidnappé. Je pense que, et c'est très marrant, notamment dans les médias français, on continue de parler d'Europe de l'Est. Mais comme si Prague était plus à l'Est que Vienne. Alors qu'en plus, géographiquement, Vienne est plus à l'Est que Prague, par exemple. Tiens, il y a cette idée, mais c'est fascinant encore. Lorsqu'on dit, je vais aller en Roumanie, ou je vais aller, je ne sais pas, en Hongrie, les gens continuent d'imaginer des pays avec des usines, des villes grises, des ladas. C'est comme si, quelque part, cette partie de l'Europe n'avait jamais vraiment été européenne, et avait toujours été une espèce de limès, de zone frontière entre l'Empire russe ou soviétique, peu importe son nom, finalement, c'est à peu près toujours le même, et une Europe occidentale qui aurait été ouverte, cultivée, etc. Je pense que cette frontière-là n'a jamais vraiment disparu. Je pense que ça marche aussi en Allemagne, où il y a toujours un Est et un Ouest qui est très... La séparation est très marquée. Je pense aussi, par exemple, que beaucoup à l'Est ont été révoltés par la mansuétude des élites occidentales vis-à-vis du communisme. Je pense que le fait, quelque part, de n'avoir jamais vraiment reconnu, ne serait-ce que les souffrances de toutes ces populations occupées pendant 45 ans par l'armée rouge, par le KGB, avec une ingénierie sociale gigantesque, parce que c'est ça, l'un des projets de l'Union soviétique, c'est l'ingénierie sociale. Ceux qui sont en haut, vous les faites partir, disparaître, vous les mettez tout en bas. Ceux qui sont tout en bas, vous les montez tout en haut. Vous transformez totalement une culture, une société. Ça, ça a engendré des souffrances terribles, sans compter les révoltes à Prague, à Budapest, où finalement l'Occident a dit c'est terrible, mais n'a jamais bougé. Sans compter aussi les trahisons avant la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie en 1938, par exemple. Le démantèlement de toute l'Europe centrale et orientale. Alors certes, les Français et les Anglais ont déclaré la guerre à l'Allemagne en septembre 1939, mais enfin, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas attaqué. À revers cette Allemagne. Donc il y a un vieux sentiment de trahison et dans les mentalités, je pense que ça, ça joue énormément. C'est-à-dire que, moi je ne suis pas du tout là pour excuser ce qui est en train de se passer en Europe centrale, mais comme j'y vais souvent, j'ai pas mal d'interlocuteurs, c'est quelque chose que vraiment je ressens, je comprends. Par exemple, il y a eu tous ces procès, heureusement, de dénazification en Allemagne. Les Européens du centre et de l'Est ne comprennent pas pourquoi, quelque part, aller juger les responsables communiste serait finalement impensable ou mal vu, ou en tout cas on ne verrait pas vraiment le sens en Europe occidentale. Et après on va peut-être encore développer d'autres choses, mais ça je pense que ça figure parmi les raisons fondamentales de cette réunification ratée entre l'Est et l'Ouest.
Alors ça c'est pour l'Est et l'Ouest. Au-delà de ça, on a quand même aujourd'hui, et c'est d'ailleurs c'est un des problèmes récurrents dont on entend parler sur l'Europe, le problème d'identité. Bon, sachant qu'en plus maintenant c'est devenu un gros mot de parler d'identité, mais on n'a pas d'identité européenne. C'est-à-dire que non seulement il y a une séparation entre l'Est et l'Ouest que vous venez d'évoquer, mais sans aller aussi loin, à quel moment est-ce qu'on essaye de construire une identité culturelle commune, ne serait-ce qu'entre la France et l'Italie, ou la France et l'Allemagne, ou la France et la Grande-Bretagne, quand il était encore temps de le faire. Donc on a aussi ce problème-là qui est culturel, qui n'est pas seulement lié à ce schisme entre Est et Ouest.
Je pense qu'il y a deux niveaux dans cette question culturelle. Il y a toujours ce schisme Est-Ouest. Les pays d'Europe centrale et orientale, après la chute du mur, eux, sont dans une quête identitaire gigantesque. Évidemment, puisqu'ils ont été occupés pendant 45 ans par les Soviétiques, ils ont généralement été occupés et rasés par l'Allemagne nazie pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire plus. Et ils ont une identité très fragile, en tout cas ils ont un espèce de complexe, parce que ces pays n'existaient pas jusqu'en 1918, en tout cas n'existaient plus. Donc il y a une revendication identitaire chez ces pays, chez ces populations qui est extrêmement forte. Nous, à la même époque, les années 90, les années 2000, on est dans, on va dire, pour faire une espèce de raccourci, la fin de l'histoire. On est dans le post-national, dans le post-identitaire, dans la globalisation, et effectivement, comme vous dites, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, alors que ça devrait être finalement un terme neutre dont on pourrait parler tranquillement, le mot identité est un gros mot. Et donc vous avez ce gigantesque schisme qui se met en place entre l'Est et l'Ouest. Un Est qui a besoin, quelque part, d'affirmer une identité, d'affirmer ses racines, de retrouver un folklore, parce que tout ça a été mis sous silence, soit littéralement éradiqué pendant des décennies. Et de l'autre, une partie de l'Europe qui fait semblant que tout ça s'est passé. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, par rapport à une identité plus générale, l'identité européenne, évidemment qu'elle existe, sauf que personne, soit ne veut, soit n'ose, soit souhaite la définir. Je veux dire, un Martien qui débarque en Europe aujourd'hui, qui se balade ne serait-ce que 5 jours en Europe, comprend évidemment quelle est cette identité. Mais cette identité, elle doit être positive, elle n'est pas négative. En 2005, on a été incapable de définir cette identité. Je ne vois pas pourquoi la tradition judéo-chrétienne, finalement, ne serait pas... Je veux dire, c'est la base de notre civilisation européenne, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est fermée à tous les autres. La laïcité à la française est une conséquence de cette tradition judéo-chrétienne. Et cette laïcité, elle est aussi ouverte à tout le monde à partir du moment où tout le monde veut bien jouer le jeu. Donc, cette identité-là, elle existe. Mais on n'ose pas ou on ne veut pas. Autre exemple, je donne toujours, c'est quelque chose qui me fascine, qui me rend fou presque, ce sont nos billets. Mais c'est incroyable, on a des dizaines, des centaines de génies européens positifs. On a fait des choses horribles en Europe, mais on a accouché aussi de d'immenses génies dans tous les domaines. On n'a pas été foutus d'illustrer nos billets. Qu'est-ce qu'on a sur nos billets en euros? On a des faux ponts, des fausses arches, des choses qui n'existent pas. Comment voulez-vous être
attaché... Si on avait un pays imaginaire.
Un pays imaginaire ou alors un pays qui a peur d'être lui-même. Et aujourd'hui, on est dans cette gigantesque question migratoire, mais comment voulez-vous intégrer qui que ce soit si on ne sait pas d'où on vient, ou on ne veut pas dire d'où on vient, qui nous sommes et où on veut aller? Parce que c'est ça l'Europe aujourd'hui, au fond. Je ne parle pas des traités, de cette construction économique qui a donné lieu à... Enfin, qui a engendré certains excellents résultats. Je parle vraiment de l'Europe, c'est-à-dire l'objet européen. Donc cet objet européen n'a jamais été défini. Mais en fait, il n'y a personne ou presque pour la définir, puisque les chefs de gouvernement savent bien que s'ils la définissent, quelque part, ça va jouer contre leur État. Finalement, si vous mettez vraiment trop en valeur l'Europe, votre pays, ce pourquoi vous avez été élu, votre job, vous donnez l'impression qu'au fond, il ne sert pas à grand-chose. Deuxièmement, il y a cette question En tout cas, prenons ensuite, après les chefs de gouvernement, il y a évidemment les institutions. Mais sauf que la Commission européenne, le budget à la culture de la Commission européenne, c'est le plus faible de la Commission actuelle, si ma mémoire est bonne. Troisièmement, l'espace public européen, qui aurait dû s'ouvrir et permettre toutes sortes d'échanges, en fait, a été renationalisé. Si vous regardez l'Europe avant 14, il y a beaucoup plus d'échanges intellectuels, il y a beaucoup plus de gens qui sont polyglottes que l'Europe d'aujourd'hui. Et si vous voulez réussir en Europe aujourd'hui, il faut d'abord réussir chez vous. On vous l'explique. Et tous les systèmes sont faits de manière à... ils ne sont pas faits de manière, mais en tout cas, ils ne sont pas faits pour favoriser la mobilité. Ce qui est quand même la base d'un espace culturel européen. Je vais vous donner l'exemple de ma petite personne. J'ai vécu en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, et là, je vais probablement m'installer en Italie. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien c'est compliqué. Lorsqu'on n'appartient pas à une société ou à un service public ou à la diplomatie, c'est-à-dire en tant qu'individu, de bouger dans un autre pays de l'Union européenne. Pas le même système de retraite, pas le même système de sécurité sociale, aucune harmonisation fiscale, c'est un casse-tête incroyable. Donc il y a une Europe qui fonctionne à peu près, même si on peut en dire plein de choses, au niveau économique, au niveau des entreprises, mais au niveau des individus, si on essaye d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire de la culture à vraiment des choses terre-à-terre de l'existence, ça n'existe quasiment pas.
Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable en vous posant la question que je vais vous poser, mais tous les États, en tout cas de nombreux États-nations, avant de devenir des États unifiés, des États-nations, se sont construits sur du long terme. C'est-à-dire, je pense tout simplement, ne serait-ce que l'unification linguistique de la France, que ce soit l'Italie ou l'Allemagne, dont finalement l'unité est relativement récente sur l'échelle de l'histoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'Europe a besoin aussi de temps pour pouvoir justement trouver ses repères communs, se construire, parce que finalement l'Europe c'est une construction très récente sur l'échelle de l'histoire.
Mais on ne pourra jamais construire l'Europe comme on a construit des États-nations au fil des siècles. Et d'ailleurs c'est pas l'objectif de la chose. Il n'y aura jamais de langue unique, ou alors ce serait un drame.
Comme ça c'était un exemple.
Mais l'État-nation c'est vraiment l'idée de la langue unique. C'est finalement celle qui va unir les gens au fur et à mesure. Les dialectes vont pas disparaître, mais en tout cas vont devenir des deuxièmes langues, avec une langue qui unit tous les citoyens d'un même pays. Donc ça n'arrivera jamais, et c'est tant mieux d'ailleurs. Cette diversité, elle est extraordinaire, il faut la conserver. Mais je dirais, moi, c'est plutôt la question du sentiment d'appartenance. Et on l'a vu avec la Grèce, en fait, il y a 10 ans, quand a commencé la crise grecque. Il ne s'agit pas de former des Européens et d'éradiquer le français, l'allemand, l'italien, vous l'aurez compris, mais le sentiment d'appartenance. Il ne peut pas y avoir de solidarité si vous n'avez pas un sentiment de familiarité. Quand tout va très bien, et ça a été le cas de l'Europe jusqu'à la fin des années 2000, jusqu'à la crise financière, finalement, les gens circulaient, on a parlé de cette Europe EasyJet quelque part. C'était sympathique. Mais à partir du moment où un des membres de la famille a eu des vraies difficultés, à la fois par ses propres erreurs et à la fois parce qu'il avait été trahi d'une certaine manière, eh bien, il n'y avait plus personne. Mais tout simplement parce qu'un Allemand ou un Français ne se sentait absolument pas concerné par les Grecs. Donc sans sens d'appartenance, sans cette familiarité qui ne peut être que culturelle, mais implicite d'une certaine manière, il n'y aura jamais de solidarité européenne. Et d'ailleurs depuis, cette affaire s'effiloche complètement. Donc il s'agirait plutôt, à mes yeux, de créer justement une espèce de terreau, de substrat, qui c'est européen, mais qui ne remplacerait pas, évidemment, qui n'éradiquerait pas les États-nations, les identités régionales.
Non, c'était pas mon idée, mais c'était plus dans l'idée de construction et du temps qu'il faut, à un moment donné, avoir ne serait-ce qu'une harmonisation dans un certain état d'esprit. Hein.
Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul, et que la nature a horreur du vide. Et donc oui, dans l'absolu, ce processus de rapprochement européen, logiquement, prendrait des décennies, voire des centaines d'années. Sauf que, parce qu'il n'y a pas de récit commun, il y a d'autres récits, et il y a surtout toutes sortes de puissances aux alentours qui, eux, se frottent les mains de notre faiblesse, parce qu'on n'a pas créé ce sentiment de communauté, vraiment l'idée de la communauté.
Cette absence de récit commun, par quel bout on le prend pour justement essayer d'y pallier ? Est-ce que ça passe par l'éducation ? Parce que qui dit culture dit éducation. Est-ce que le problème, il est à la base, au socle de notre identité, c'est-à-dire notre éducation ? Quand on fait ne serait-ce qu'un cours d'histoire, moi j'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit que j'étais européenne en cours d'histoire, par exemple.
Non, mais vous ne pouvez pas avoir le souvenir puisque ça n'existe pas. Donc, vraiment dans les écoles très particulières. C'est là, je ne sais pas... comment, enfin, on peut essayer de réfléchir, mais comment on construirait ce récit européen. Mais le problème, ce qui est fascinant, et là on revient à Mengele en fait, ou plutôt on ouvre la porte à Mengele, c'est que pour moi Mengele, c'est l'incarnation de la faillite absolue de l'Europe dans la première partie du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que Mengele, ce qu'on appelle un fils de bonne famille, c'est quelqu'un qui a un double doctorat, ce qui est très rare à l'époque, de médecine et d'anthropologie. C'est quelqu'un qui aime la musique classique, c'est quelqu'un qui aime la littérature classique, et dont la première femme a étudié l'histoire de l'art à Florence. Donc si l'histoire s'arrête au milieu des années 30, vous avez la définition du bourgeois cultivé européen. Certes conservateur, mais bourgeois cultivé européen. Ce bourgeois cultivé européen va conduire 400 000 personnes à la chambre à gaz quelques années plus tard en chantant des airs d'opéra, en sifflant des airs d'opéra et procéder à des expériences hallucinantes sur des enfants. Ce destin-là, cette trajectoire-là, pour moi, incarne véritablement la folie suicidaire de l'Europe entre 14 et 45. Pendant plusieurs décennies, il a fallu reconstruire. Et donc, quelque part, on n'a pas trop parlé de toutes ces choses. Le travail de mémoire commence au moins 30 ans plus tard. Donc, tous ces gens, finalement, poursuivent leur carrière. Bon, Mengele, c'est autre chose. Il part en Amérique du Sud, mais il a conscience de ça. C'est ce qui le rend tellement aigre, en fait. Lui, il a le sentiment de l'injustice. Pourquoi moi et pas tous les autres, puisque tout le monde était impliqué dans cette affaire. Ce travail de mémoire qui a été salutaire et qui a été indispensable a entraîné, d'une certaine manière, la déconstruction totale de l'idée de grand récit. On est entré dans ce qu'on a appelé une espèce de postmodernité, c'est-à-dire une multiplication de récits. C'est-à-dire que vous avez ouvert une porte en déconstruisant, donc, au fond, ce qui faisait, et c'est ce que regrette un homme comme Éric Zemmour aujourd'hui, c'est-à-dire un grand récit qui vanterait les mérites absolument de la patrie. C'est-à-dire que la patrie n'aurait jamais rien à se reprocher. Mais ça a commencé avec la Shoah dans toute l'Europe, donc déconstruction totale de ce qui s'était passé. Ça s'est poursuivi avec la décolonisation, la colonisation. Donc il y a une déconstruction de tous les mythes. Donc c'est très compliqué de bâtir un récit à partir du moment où finalement, chaque fois que vous grattez, vous vous rendez compte qu'en fait, que c'était pas du tout ce qu'on nous a raconté pendant des décennies. Et j'en reviens toujours avec l'Est. L'Est, elle est à la recherche d'un grand récit. Ce que fait Orban en Hongrie, c'est la construction d'un grand récit, héroïque quelque part, parce qu'eux ne sont pas du tout à ce stade de la déconstruction. En Pologne, c'est pareil. Et donc l'émergence d'un grand récit qui serait pan-européen est extrêmement complexe à construire, et je pense que le seul moyen qui aurait éventuellement la possibilité de le faire, c'est justement par la culture européenne. Parce que vous avez une culture européenne qui, depuis les Grecs, quelque part transcende les frontières et qui, pour le coup, est positive, même si elle a eu des conséquences très négatives. Mais quand même, cette culture européenne, elle est à la fois brillante et unique en son genre. Donc l'histoire politique de l'Europe est très complexe, elle est plutôt sombre, mais l'histoire culturelle serait beaucoup plus intéressante. Ça, ce sont des pistes, mais cette question de la déconstruction est quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément et qui, je pense, est une des choses qui divise l'Europe à la fois géographiquement entre les pays, mais aussi à l'intérieur de toutes les sociétés, on le voit bien.
Cette absence de récit, c'est peut-être aussi ce qui permet aux extrêmes d'arriver, de proposer à une population en mal, justement, d'identité, ce grand récit qui va leur donner des repères. Parce que ce qui est souvent reproché à l'Europe, c'est une forme aussi d'opacité. Les gens ne comprennent pas très bien, ont l'impression d'être dépossédés de quelque chose, alors qu'en fait, l'Europe est quelque chose qui est censé leur appartenir. Et finalement, quand quelqu'un arrive en leur disant « Mais rappelez-vous vos racines, moi je vais vous dire qui vous êtes, vous avez été des conquérants. » La Turquie fait ça très bien. Erdogan aussi raconte un grand récit à son peuple. Et en fait, les gens sont très preneurs de ça. Donc c'est peut-être aussi là la faille. C'est-à-dire que sous prétexte de ne pas admettre nos propres fautes, on se dépossède aussi de ce qu'on a de positif, d'une certaine façon.
Depuis 30-40 ans, pour les Français qui sont dans cette salle ou ceux qui ont vu ce film, je donne souvent cet exemple. Prenez le film de Raymond Depardon sur la campagne de Giscard d'Estaing en 1974. Le pays que Depardon nous montre a totalement disparu. Je donne cet exemple-là parce qu'en fait, les gens aujourd'hui sont incroyablement angoissés par ces changements qui ont eu lieu à une vitesse vertigineuse depuis 30-40 ans. Ce sont des changements économiques, ce sont des changements démographiques, des changements migratoires, des changements climatiques. C'est-à-dire l'univers relativement simple dans lequel ils vivaient a quasiment disparu. En tout cas, ils ont le sentiment qu'il est totalement menacé. Donc les gens sont anxieux. Quand vous êtes anxieux, vous avez envie, évidemment, d'être réconforté. Besoin qu'on vous raconte une histoire qui va vous détendre d'une certaine manière, en tout cas qui va donner au moins un début d'explication à tout ça. L'État aujourd'hui, en tout cas tel qu'il s'est construit, est globalement totalement dépassé sur toutes ces questions, puisque ça se joue à un niveau macro qui dépasse chaque État-nation. L'Europe, qui est à l'étage au-dessus et qui, pour le coup, aurait des moyens beaucoup plus importants de peser sur toutes ces questions-là, soit n'a pas les compétences pour le faire, soit refuse de le faire, et surtout ne raconte rien. J'ai donné l'exemple des billets en euros. Hier soir, j'étais à Bruxelles. Baladez-vous dans le quartier européen. Quel sentiment vous avez lorsqu'on se balade dans le quartier européen à Bruxelles ? Mais nul, vide, c'est formel, c'est y a rien. Il n'y a aucune émotion. Et la Commission européenne, ce n'est pas son métier. Personne, en fait, ne raconte ou donnerait des explications ou quelque chose qui pourrait rassurer les gens. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Donc il y a plein de gens qui sont apparus en Europe depuis 10-15 ans et qui remplissent ce vide. Parce que les gens sont angoissés, parce qu'en plus à l'Est, si on prend le cas de l'Est, les populations diminuent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis et il y a une natalité très faible. Donc c'est vraiment ce que j'appelle le complexe magyar, c'est-à-dire que les Hongrois ont une langue quasi unique, civilisation très particulière, et ils ont littéralement le sentiment d'être voués à la disparition, sauf si on intervient, si on ferme, justement, pour enrayer quelque part cette idée de, ou dissiper la peur de la disparition. Et toutes ces questions ont été avivées, évidemment, par l'arrivée des migrants en 2015, la décision allemande. Mais au départ, cette décision qui scinde l'Europe en deux, on retrouve en gros la frontière, mais même de la RDA, puisque finalement, je pense qu'il ne faut pas prendre l'ancienne RDA pour l'Est de l'Allemagne, mais plutôt comme l'Ouest de l'Europe centrale et orientale, encore aujourd'hui, d'une certaine manière. On le voit bien dans le vote, dans les réactions. Donc au départ, ce qui fait réapparaître très fortement, très fermement, très ouvertement, cette frontière, aujourd'hui, scinde toutes les sociétés européennes, à l'Ouest également. Et elle est là, la question du grand récit. Puisque le grand récit national a été déconstruit parce qu'on a commencé à travailler l'histoire et que ce devoir de mémoire, j'aime pas le terme de devoir, mais ce travail de mémoire qui était indispensable, a montré les bailles, les failles des histoires. Et comme il n'y en a pas un supranational de récit qui aurait pu finalement donner envie d'autre chose, de raconter autre chose, de rassurer, vous avez l'émergence de tous ces contre-récits qui, eux, sont ceux de la fermeture.
Alors, pour revenir à la culture, je ne sais pas si ma question est idéaliste ou romantique, mais est-ce que vous pensez, vous qui êtes écrivain, que la littérature a un rôle à jouer dans l'unification culturelle ? Peut-être ne pas fermer ça uniquement sur la littérature, mais l'art en général, mais évidemment, la littérature étant vecteur d'idées, de mots, c'est peut-être plus facile, d'une certaine façon, d'évoquer cette question.
Déjà, quand même, malheureusement, la littérature a perdu sa centralité, on va dire, un petit peu dans les sociétés romaines. C'est marrant, je pensais à ça ce matin. J'étais dans cette merveilleuse librairie Tropisme à Bruxelles. Et je me souviens justement qu'au moment de la chute du mur, il y a 30 ans, combien tous ces intellectuels ont eu un rôle majeur, incarné quelque part une idée de l'Europe. Aujourd'hui, je pense que vous faites un sondage au niveau de l'Europe. Quel intellectuel, ne serait-ce que l'idée d'intellectuel européen qui existait à l'époque, aujourd'hui, combien sont-ils, je ne sais pas. Donc ça, c'est déjà une question. Il existe vraiment un milieu culturel européen. Quand je dis milieu culturel européen, je ne parle pas des créateurs, je parle de gens comme vous ce soir. Moi, je présente mes livres dans toute l'Europe depuis des années, en particulier depuis ces deux dernières années. Au fond, je rencontre toujours à peu près les mêmes gens. Qu'ils soient danois, français, italiens, espagnols, cette population existe. Il y a vraiment des Européens, je ne sais pas comment les quantifier, je ne sais pas, 20%, mais c'est à peu près toujours les mêmes. Ce sont des gens qui généralement appartiennent aux classes moyennes supérieures, qui voyagent, qui ont eu accès à une très bonne éducation, qui ont bien réussi, et qui en gros sont les gens qui achètent la littérature étrangère. Mais elle est en crise, la littérature étrangère. Vous le savez mieux que moi.
En France.
En France, et oui, à l'étranger, je ne sais pas très bien, mais en France, c'est ce qu'on entend tout le temps. La littérature étrangère, il y a des titres incroyables qui sortent en permanence, il y a très peu de lecteurs. Donc ces gens-là existent. La littérature, elle est... évidemment, elle peut réunir, elle va faire, comment dire...
Circuler les idées.
Elle fait circuler les idées. Après, il y a des problèmes de traduction. Après, il y a des problèmes de forum. Ici, c'est fantastique. C'est la première fois, j'avoue, je ne connaissais pas l'Institut il y a encore quelques mois avant cette invitation, mais que ce soit une institution luxembourgo-franco-allemande, c'est merveilleux, c'est une vraie institution européenne. Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire des agora où des intellectuels européens pourraient se rencontrer. Regardez le marché du livre en France. Les grands salons en France, Nancy étant probablement le premier avec la foire de Brive, par exemple, vous avez les auteurs français et en général, vous avez les auteurs étrangers à part. Il y a très peu de salons de la littérature européenne. pour des raisons de langue, pour des raisons de financement, pour des raisons de tout et n'importe quoi. Certains auteurs allemands marchent chez eux, mais ils ne marchent pas en France, ils ne sont même pas traduits. Et c'est voilà, vous pouvez multiplier ça par tous les pays européens. Donc, cette littérature européenne, je ne parle pas de la littérature de chaque pays qui circulerait éventuellement en Europe, cette littérature européenne, elle est très, 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 très rare. Donc, ce ciment-là, mais parce qu'encore une fois, là aussi, il y a une réalité, c'est le marché du livre, il est national. Il n'est pas vraiment européen, le marché du livre. Donc, il y a... C'est un moyen, évidemment, de propager, de faire circuler des idées, mais malheureusement, il est quand même très, très minoritaire. Il ne concerne pas beaucoup d'auteurs et pas assez de gens.
Et puis, en même temps, on parle de la nécessité d'avoir une culture commune en Europe qui pourrait créer du lien et peut-être nous préserver aussi du pire dans l'avenir. Mais quand on lit, par exemple, Le Monde d'hier, journal d'un Européen de Stefan Zweig, qui, je crois, qu'il a écrit un peu avant de mourir, d'ailleurs.
En 1941, vraiment, voilà, c'est son dernier livre.
Il parle déjà d'échec de la civilisation et c'est pas uniquement, sa réaction n'est pas uniquement politique. Il a la nostalgie d'une époque, justement, des cafés viennois, des échanges, des intellectuels, etc. Mais il déplore le fait que ça n'a pas suffi à enrayer le pire. Plus tard, Camus parle aussi de crise européenne qui s'inscrit plus généralement dans une crise de l'homme. Donc, est-ce que vraiment la culture est ce qui va nous aider à nous unifier ou à nous sauver des extrêmes et du pire ?
Si la culture sauvait qui que ce soit, ça se saurait depuis longtemps. Mengele est encore une fois l'exemple parfait d'un homme relativement cultivé qui commet les choses les plus terrifiantes. Et le nombre de nazis ou le nombre de commissaires politiques de Staline qui avaient une certaine culture, il y en a beaucoup. Donc évidemment, culture ne veut pas dire, n'est pas égal à bonne âme ou...
Unité.
Exactement. Donc ça peut pas être aussi simple. Je pense que la culture peut unir et dans l'union... Il y a quand même quelque chose qui apaise les tensions, logiquement. Après, individuellement, ça ne changera absolument rien. Ça, c'est certain.
Qui ouvre peut-être la porte à la possibilité d'un vrai débat, d'un vrai dialogue.
Non, mais pour en revenir à Zweig, en Europe, notamment à l'époque de... Bon, en plus, il écrit ça en 1941, donc 1941 étant probablement la pire année, les armées d'Hitler sont partout, on se demande s'il va conquérir la Grande-Bretagne, l'Union soviétique, le tiers est envahi, donc là, on se dit, c'est vraiment la fin de l'Europe. Donc il y a le contexte, bien évidemment. Et puis, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'en Europe, parallèlement à la Vienne merveilleuse de Zweig, des cafés, de la psychanalyse, de la peinture, de toute la modernité qui est inventée à Vienne et partout en Europe, donc avant 14, il y a une culture de la destruction qui est très très forte et qui quelque part va l'emporter après le choc de 14-18 sur cette culture, appelons ça des lumières ou de l'ouverture ou de la modernité. L'Europe a toujours porté en son sein cette double culture. Et Zweig le ressent. Et dans la Vienne de sa jeunesse, vous avez à la fois donc, cette ouverture incroyable, cette invention de la modernité, et en parallèle, vous avez un maire ultra-antisémite, vous avez des violences, vous avez des tensions entre nationalités, et 14, quelque part, va ouvrir la porte à toute cette violence que porte l'Europe depuis toujours, d'une certaine manière. Donc, il y a... La culture, évidemment, ne résoudra certainement pas tout, mais s'il y en avait un peu plus entre nous, je pense que ça ne pourrait pas nous faire du mal. Ça ne pourrait pas faire de mal.
Vous avez un projet, je crois, d'une académie européenne, c'est bien ça ?
Oui, je veux faire concurrence à l'Institut Pierre Werner. Ça va être difficile, j'en conviens. Quand j'étais à Berlin, je fréquentais assez régulièrement l'Académie américaine, American Academy, qui est une institution très intéressante, qui est sise dans un bâtiment, enfin d'une très belle maison qui appartenait à une famille juive avant-guerre, sur le lac de Wannsee, et qui a été transformée en une espèce de villa Médicis pour des artistes américains, notamment des historiens, des écrivains, financés avec des fonds privés. Et je trouve qu'il manque... justement une espèce de villa, mais qui ne serait pas à Médicis où on n'accueillerait que des Français, une villa européenne où des créateurs d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, de disciplines différentes, se croiseraient, vivraient ensemble pour faire... Moi, c'est toujours cette idée de l'espace public européen qui n'existe pas. Je suis fasciné. Quand vous regardez la météo en France, vous n'avez aucune idée du temps qu'il fait en Allemagne, en Espagne, en Italie. Vraiment, il y a des frontières hyper opaques. Lorsqu'on est à Thionville, on ne peut pas savoir le temps qu'il fait à Luxembourg. C'est impossible. Et tout est comme ça. Donc, ça, c'est une idée parmi tant d'autres. Mais une espèce de projet embryonnaire pour, justement, au moins, justement, que ces rencontres aient lieu. Parliez de Zweig à l'époque, il y avait beaucoup plus de rencontres. Parce qu'il y avait ces grands empires aussi. Le héros de mon premier roman, Jacques Coscas... un détraqué sexuel qui veut restaurer l'Empire austro-hongrois. Et parce que l'Empire austro-hongrois a sans doute été la civilisation qui a le porté au plus haut l'idée européenne quelque part. Mais parce qu'il n'avait pas le choix.
D'Europe culturelle.
Et d'Europe culturelle. C'est Magris, l'écrivain italien, qui a cette phrase extraordinaire, puisque lui, il a fait toute son œuvre, et cette idée, une forme de nostalgie, puisqu'il vient de Trieste, qui appartenait aussi à l'Empire. Lui, il a dit, il a écrit que dans 2000 ans, comme nous, on comprend qu'il y a eu un espace gréco-romain, avec des ruines, finalement, le long de tout le bassin méditerranéen, et ben on comprendrait qu'il y a eu un moment dans l'histoire, une civilisation centre-européenne, parce que vous avez le même genre de bâtiments dans l'ouest de l'Ukraine, comme dans le nord de l'Italie, comme en Allemagne et comme jusqu'au fin fond de la Roumanie. Donc c'est cette idée vraiment d'une civilisation pan-européenne qui a existé et qui malheureusement, enfin si c'est pour reproduire les bâtiments de la Commission, oui, il y en a partout, mais qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus.
Konferenzen, Enregistrement zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Informationen zum Thema wie auch Biografien von den Intervenoren sind zu finden auf französischer Spruch auf radio100,7.lu und auf Konferenzen. Also, merci für den Interesse, a bis geschwind.